René-Gilles Leblanc, vous êtes historien à la retraite chez Parc Canada et avez travaillé comme archiviste au Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton pendant 25 ans. En cette journée du 28 juillet, jour de commémoration du Grand Dérangement, pourriez-vous nous parler de vos recherches qui ont contribué à la compréhension et à la connaissance du Grand Dérangement?
Faut retourner aux sources. C'est toujours ça, c'est toujours ce qui est essentiel. Quand on retourne aux sources, aux documents de l'époque, puis maintenant, on a beaucoup de documents qui nous reviennent des journaux anglo-américains, une source qui a été négligée par les historiens, largement négligée par les historiens jusque-là. On se base surtout sur la correspondance officielle, sur des mémoires, des rapports, mais toujours en provenance des instances gouvernementales ou de l'armée ou quoi que ce soit. Mais là, les journaux anglo-américains, eux autres, nous livrent une autre perspective, une autre version. Souvent. C'est des officiers qui écrivent à Boston, qui vont relater ce qui se passe durant le siège de Fort Beauséjour. Et dans cette nouvelle source-là, on se rend compte finalement que ça vient confirmer ce qu'on trouve dans les documents français, ça vient confirmer ce qu'on trouve dans d'autres, mais quand même. Alors, c'est retourner aux sources. Et quand on fait parler des documents, on se rend compte que non, c'est pas si simple. C'est pas si évident que tout ça, là. Puis on nous a vendu la sauce ou la salade. Ça, c'est une autre chose. C'est les Britanniques qui contrôlaient les documents. Et puis, bon, il y a beaucoup de documents qui sont disparus, hein, d'Halifax, comme on le sait. Ça fait des années qu'on sait ça. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui évoque le désarmement de la population acadienne quand on parle de la déportation? Et pourtant, c'est là, c'est clair, là. On a désarmé littéralement. Il y a des soldats qui sont partis de Fort Edward pendant la nuit, qui sont allés dans les maisons acadiennes, qui ont investi les maisons, qui ont saisi toutes les armes. Et dans d'autres cas, les Acadiens ont de leur propre chef. Ben, ils ont été demandés de livrer leurs armes. Alors pourquoi il n'y a personne qui parle de tout ça? En tout cas. Alors voilà. Ma recherche, puis là, je suis en train d'écrire maintenant une biographie de Beausoleil. Qui va aller dans le même sens. C'est une histoire, finalement, de résistance acadienne, mais avec un emphase sur la place que Beausoleil a occupée. Alors, c'est une biographie, mais un petit peu plus étendue, là, parce que je veux te présenter quand même la résistance. Alors, tu vois, on est loin d'être sorti du bois, il y a encore beaucoup de travail à faire, et puis, alors, c'est ce que je suis en train de faire. À la fin de ma vie.
Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien avec le monument commémoratif qu'on retrouve aujourd'hui à Wilson's Point à Miramichi?
Ben, ça, c'est... comment dirais-je? On a mis sur pied, oui, la commission. Le but premier de la commission, c'est de diriger des monuments en vue de commémorer le passage des Acadiens à tel était l'endroit durant le Grand Dérangement. Ici, en Acadie, évidemment, quasiment chaque village pourrait qualifier. La Miramichi, c'était incontournable. Le Camp d'Espérance, c'est un événement très, très, très marquant de cette période-là. Ça a marqué les esprits. Ramon de Saint-Père, quand il est venu une centaine d'années plus tard, où il faire son voyage en Acadie, ben, on lui a parlé de ce horrible hiver qu'on a passé, au Camp d'Espérance, à Wilson's Point, tout près, en 1757. Et puis, alors, ça s'inscrivait tout à fait dans la logique, si tu veux, tu sais, de la commission.
Pour revenir un peu à Miramichi, évidemment, le Camp d'Espérance, pour vous, vous êtes rendu en France à un moment donné pour aller voir les enregistrements navaux, et finalement, vous êtes tombé presque par hasard sur les rapports financiers de Camp d'Espérance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Ça c'est ce qu'on appelle les billets d'Acadie. Alors, les billets d'Acadie, là, ça, c'est une des grandes découvertes au 21e siècle pour l'histoire acadienne. C'est un fonds d'archives qu'on appelle, c'est une série de documents. Ces billets d'Acadie, c'était une sorte de reçu que les Acadiens recevaient pour les services ou les biens qui étaient vendus, les services rendus ou les biens vendus à la couronne française. Ces billets billets-là, là, ça nous donne un aperçu vraiment de tout ce qui s'est passé, tout ce qui est lié à la construction des forts Beauséjour et Gasparo. Si un Acadien où il va travailler à transporter des matériaux, ou un charpentier, c'est là qu'on voit, tu sais, les pots de castor qu'on achète, puis on met bien là, pour la subsistance des familles réfugiées. Ça nous donne un très, très bon aperçu des déplacements des gens. Alors, ces billets-là, vraiment, pour la Miramichi, c'est incroyable, parce que ça vient, confirmer ce qu'on trouve dans les documents.
Tout ça s'inscrit justement dans cette mission-là de mettre au goût du jour ou mettre à la lumière du jour ce qui s'est passé au camp d'Espérance, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus encore aujourd'hui.
Beaucoup d'inconnus. Et puis ça, évidemment, il y a des questions qui vont toujours demeurer sans réponse, parce que c'est très difficile. C'est par exemple la présence des familles autochtones. Et moi, je mentionne dans mon article, mais on voit ça, c'est un camp de réfugiés acadiens, mais il y avait aussi des autochtones. Plusieurs, on estime surtout d'un mille, c'est surtout des Abénakis. C'est eux qui faisaient la guerre avec Boisbert. Parce que là, en 57, là, on prévoyait l'expédition contre Louisbourg. Et parce que les Britanniques, hein, c'était dans leur plan d'attaquer Louisbourg. Alors Boisbert préparait cette expédition-là, lui, à l'hiver de 57. Alors il avait besoin de ces guerriers-là, ces guerriers autochtones, et puis évidemment des résistants acadiens et sa garnison. Mais alors il a fallu nourrir tout ce monde-là, et c'est pour ça, là, tu vois, qu'il a manqué de vivre à un certain moment donné.
Vous l'aviez mentionné un peu au fil de notre entretien, mais on vous sait à la retraite depuis 2012, mais j'ai l'impression que vous êtes demeuré quand même actif. Est-ce que vous pensez un jour prendre une vraie retraite, c'est-à-dire peut-être ranger ça dans un tiroir et c'est bon pour vous, ou au contraire, c'est plus fort que vous de poursuivre ce travail de recherche?
Oui, il faut continuer. Mais en vieillissant, c'est de plus en plus difficile. Parce que j'ai pas la mémoire que j'avais, j'ai pas les facultés, hein. Alors des fois, ben c'est laborieux, parce que les documents, j'ai vu un document, j'ai vu telle chose dans le document, mais là, ça t'oublie, hein. Puis là, bon, mon dieu, j'ai vu ça. Alors tu vois, c'est un peu frustrant dans ce sens-là, là. Parce qu'un temps passé, j'avais pas ces problèmes-là, mais maintenant, à vieillir, c'est beaucoup plus difficile. Mais à part ça, non, moi, je vais continuer jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle.
René-Gilles Leblanc, vous êtes historien à la retraite, certes, mais toujours actif pour remettre à la lumière du jour l'histoire de l'Acadie. Merci beaucoup.
Ça m'a fait un grand plaisir.
Ici Vincent Lavoie pour EJL à Miramichi.